chute, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence. C'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio avec Alain Jeanne.
Bonsoir à tous, comme chaque lundi désormais à 19h, ravi de vous retrouver pour votre émission Chute, on écoute la télé sur Brenige FM.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Allez, au menu de ce nouveau numéro exceptionnel de Chute, on écoute la télé aujourd'hui. Bien, dans un instant, nous allons faire un focus sur la série Ainsi Grand Soleil. Vous savez, elle enchante vos soirées, elle ensoleille même vos soirées à 20h45 sur France 2 du lundi au vendredi. C'est les personnages d'Inès et Sophia qui seront avec nous. Maëva et Laroussi, Marie-Clotilde Rameau-Sibanez seront donc nos invités. Et puis, en fin d'émission, nous recevrons les jumeaux. Ils seront en spectacle. Eh bien, ça sera mercredi soir à Bordeaux. Eh bien, nous en parlerons évidemment avec eux puisqu'on n'est pas là pour vendre des cravate, eh bien c'est ce qu'ils nous diront évidemment tout à l'heure. Et puis dans nos coups de cœur télé de cette semaine, eh bien nous allons recevoir la productrice des Ombres Rouges, Cécile Grenouillet, le réalisateur de la série Christophe Douchon, qui viendront nous parler de l'aspect technique du tournage d'une série pour la TNT et notamment pour C8. Qu'est-ce que ça a changé par rapport aux grandes chaînes? Eh bien ils nous diront tout évidemment tout à l'heure. Et puis spécial Un Homme Parfait également, puisque ça c'est la fiction qui sera diffusée mercredi sur France 2. Nous recevrons le réalisateur Didier Bivel, nous recevrons les producteurs Guillaume et Charles Bernard et les deux héroïnes principales, Odile Huillemin et Lila Rose, Gilberti, la jeune Lila Rose qui fait ses débuts de comédienne dans ce film qui est absolument épatante. Et puis nous aurons également une spéciale d'Une mère sous influence, ce téléfilm est diffusé demain sur France 3. Nous recevrons à cette occasion Mathilde Muffan qui est la productrice du téléfilm, ainsi que les deux héroïnes, Caroline Anglade et Julie Debona, qui seront nos invités exceptionnels. Donc vous l'avez compris, c'est un programme chargé qui nous attend une fois de plus. Alors on va démarrer comme d'habitude avec les audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Allez, on commence si vous voulez bien avec les audiences de lundi dernier. C'était le grand retour des Bracelets Rouges hein, sur TF1. Eh bien, c'est un beau succès avec 5 031 000 téléspectateurs et 23,3% de part de marché. Kepler baisse un peu sur France 2, mais c'est encore un beau score. 3 267 000 téléspectateurs, 14,4% du public. Et puis, Marie au premier regard sur M6 conserve solidement hein, sa troisième place avec 2 346 000 téléspectateurs et 10,8% du public qui était au rendez-vous. Par contre, c'est pas fort hein, pour Thalassa sur France 3. Seulement 1 641 000 et 7,5% de part de marché. Mardi, L'Arme Fatale faisait son retour sur TF1. Eh bien, c'est un beau score. 4 147 000 téléspectateurs et 19,3% de part de marché. Le téléfilm de France 3 Sous la peau s'en sort bien avec 2 930 000 téléspectateurs, 13,3% de part de marché. Petit score pour La Fabuleuse Histoire de l'Hygiène. 2 098 000 téléspectateurs seulement et 10,1% de part de marché pour France 2. Et puis par contre, c'est un carton pour Le Mal de dos sur France 5. 1 794 000 téléspectateurs. Et puis c'est un bon début hein, pour Les Ombres Rouges sur C8 avec 901 000 téléspectateurs et un peu plus de 5% de part de marché. Mercredi, il y avait Grey's Anatomy qui faisait son retour sur TF1. C'est un petit leader avec seulement 3 553 000 téléspectateurs et 16,1% de part de marché. Légitime s'en sort bien sur France 2 avec quasiment 3 millions de téléspectateurs et 13,1% du public. Top Chef sur M6 conserve ses spectateurs avec 2 546 000 et 13,1% de part de marché. Jeudi, sans surprise, c'est Section de Recherche qui arrive en tête des audiences avec les épisodes 3 et 4. Et puis vendredi, c'est le grand retour de Koh-Lanta qui a triomphé évidemment. Comme d'habitude sur TF1, on s'y attendait quand même. Voilà pour les audiences de la semaine dernière.
L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, des invités d'Ainsi Grand Soleil sur France 2. Vous savez, c'est la série qui vous rend heureux le soir. Hein. C'est à 20h45 et c'est du lundi au vendredi. On a la chance d'avoir deux comédiennes de la série qui sont avec nous. Marie-Clotilde Rameau-Sibanez qui est avec nous, qui joue le rôle de Sophia. Et nous avons également Maëva Aroussi qui est avec nous pour le lancement de la série aussi. Bonjour Maëva.
Bonjour.
Alors, j'espère que vous allez bien les filles. Alors moi, j'ai eu la chance d'aller sur le tournage évidemment d'Ainsi Grand Soleil dès le début pour le coup, dès les premiers balbutiements de la série. Et elle a pris très très vite. Ça a été un succès hallucinant dès le départ. Presque 4 millions de téléspectateurs avec les replays tous les soirs. Maëva, t'as été surprise toi par ce succès immédiat?
Pas surprise, parce qu'en soi c'est ce qu'on espérait, donc tu peux pas être surprise d'un truc que t'attends, mais en tout cas très 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 contente de voir que les gens sont pris au jeu et que les gens aiment ce qu'on fait.
Et le personnage d'Inès, qu'on aime tous évidemment, avec ses joies, ses peines...
Ses amours, ses emmerdes, sa petite vie d'ado quoi, qui va continuer d'être assez mouvementée dans les prochains épisodes, vous verrez. Mais voilà, une petite vie d'ado, une petite Inès, une fille dans... Je pense que la plupart...
Dans son temps.
Voilà, ouais. Pas mal d'ados peuvent se retrouver dedans, donc c'est cool.
Et puis la page d'Ilan est définitivement fermée là.
Bah oui, après tout ce qu'il a fait, au bout d'un moment, faut que la petite Inès pense à elle, passe à autre chose et trouve un mec bien, enfin.
C'est ce qu'on va lui souhaiter. Alors Marie-Clotilde, toi Joe est parti, ça y est, l'amour de sa vie est parti loin pour quelques temps et le personnage s'en remet assez facilement finalement, on a l'impression.
Oui, je m'en remets facilement parce que j'ai été tellement, tellement amoureuse. C'est un peu comme dans toutes les relations amoureuses, quand on est trop, trop, trop amoureuse et que l'autre personne nous donne beaucoup, et ben à un moment... On n'en veut plus de ce que l'amour, de ce que l'autre personne nous donne en amour. Alors après, c'est quand même un peu difficile. Sophia, mon personnage, montre pas tout le temps tous ses sentiments. Elle aide beaucoup, beaucoup les autres. Donc elle s'aide pas trop elle-même. Voilà, je pense que je pourrais dire ça.
Bon, est-ce que toi, t'as été surprise du succès de la série immédiat?
Surprise, oui et non. En fait, j'étais hyper heureuse vraiment de voir cet engouement pour la série. Et oui, j'étais surprise parce que c'était ma première vraiment grosse série, donc j'avais pas trop comment ça allait se passer. Et là, tous les soirs, tous les matins, Sophie nous envoie le score et on est hyper contents. Et on est tous tellement heureux. C'est génial. Continuez à nous regarder vraiment tous les soirs.
Oui, et puis comme ça, en même temps, voilà, ça fait travailler toute une région et c'est ça qui est important aussi. Et du côté de Montpellier, alors toi, t'as beaucoup de scènes à la Paillotte, à la Grande Motte, beaucoup de scènes aussi avec ton associé.
Mon associé, donc à lui, il a 51% des parts, moi 49, donc c'est Fred Bianconi qui joue Virgile, mon associé. Et oui, j'ai beaucoup, beaucoup de scènes à la Grande Motte. La Grande Motte, j'aime beaucoup ce lieu. Il fait chaud en été, mais par contre en hiver, franchement, il fait très, très froid. Avec le vent, on est sur du 4 degrés.
On voit bien qu'en ce moment, il y a les blousons. Hein.
Oui, il y a les blousons, mais j'aime vraiment beaucoup cette région et c'est agréable de jouer en décor naturel. Ça, c'est vraiment très, très, très agréable.
Oui, t'as cette chance, toi, de jouer la majorité de tes scènes, pour le coup, en décor naturel. Quel est votre plus beau souvenir de tournage à toutes les deux, pour le coup, Inès, Maëva, Maëva, Inès.
Inès, Maëva, on s'y perd. Mon plus beau souvenir de tournage, c'est mitigé en soi. Enfin, les soirées. Quand on tournait les soirées, le nouvel an et la fête de Dylan, c'était vraiment sympa. Parce que voilà, ambiance fête, etc. Du coup, c'est des tournages qui changent. Mais sinon, en soi, chaque jour est merveilleux. Ça fait un peu faillotte, mais c'est le cas, quoi. Donc voilà.
Et pour toi, Marie-Clotilde ?
Moi, ça va être un peu cliché, mais c'est ma scène de lit avec Valérie Caprisky. J'étais quand même dans un lit avec Valérie Caprisky.
Sans les méduses.
Donc vraiment, c'est un beau souvenir. Après, j'en ai plein d'autres, mais c'est vraiment un de mes souvenirs un peu clés. Voilà.
Bon, en tout cas, c'est un rendez-vous incontournable maintenant dans le cœur des Français tous les soirs. Alors, moi, pour le coup, Maëva, tu as un père dont je suis totalement fan.
On est tous fans de mon père. La personne qui n'aime pas mon père n'est pas une bonne personne ou une personne qui... Non, ça n'existe pas, les gens qui n'aiment pas mon père. Tout le monde aime mon père et moi la première.
Voilà, ça c'est dit.
Moi aussi, je l'aime, son père, je l'aime beaucoup. Je l'adore.
Bon, des beaux tournages en tout cas en décor naturel, c'est ce qu'on disait. Quelle aventure vous aimeriez qu'il vous arrive? Alors toi, Marie-Clotilde, est-ce qu'il y a une aventure particulière que tu aimerais que les auteurs t'écrivent à l'avenir?
Ah, très très bonne.
Si nous écoutez, tu vois. S'ils nous écoutent, c'est le moment, vas-y, lâche-toi.
Eh ben écoute, j'aimerais qu'Inès vive sa vie d'ado encore plus qu'elle le fait déjà, c'est-à-dire avec plus d'embrouilles, plus d'histoires, parce que c'est vrai qu'à 15 ans, voilà, on se fight avec nos copines, je parle pas au sens propre, mais bon, les petites embrouilles et tout machin, et c'est vrai que je trouve que bon, on n'a pas tant d'embrouilles que ça, et je trouve ça dommage, parce qu'à 15 ans, c'est là où tu fais le plus d'histoires.
Tu trouves qu'elle est trop sage?
Beaucoup trop sage, même avec ses parents, elle se rebelle un peu, mais pas tant que ça. Du coup, j'aimerais bien qu'Inès en prenne un peu de dans le pantalon, comme on dit.
Voilà, c'est dit. Et toi, Marie-Clotilde?
Alors moi, j'aimerais bien connaître un peu ma famille, mes antécédents, tout ça, parce qu'on n'a pas, on est un peu flou là-dessus.
C'est vrai, tu as raison.
Voilà, savoir si j'ai des frères et sœurs, si j'ai des parents ou s'ils sont plus là. Voilà, tout ça, j'aimerais savoir. ce qui va se passer.
Écoute, l'avenir s'annonce rayonnant. Regarde, Plus belle la vie, 15 ans cette année. C'est tout ce que je vous souhaite pour la suite. Alors, en 15 ans, il y aura largement le temps d'explorer, je crois, tes parents, une future femme, peut-être un mari après,
ouais,
une future
pas,
maman. Un tu bébé, peux changer, voilà.
Un bébé, on ne sait pas, tout ça, tout ça. Non, mais vraiment, je suis très, 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 très heureuse. Et on est très fiers de faire partie de cette série.
Il y a des fêtes un petit peu, le soir, après le tournage, le week-end, raconte-nous.
On adore, oui, on sort beaucoup. Mais alors moi, je suis l'organisatrice des soirées, quand même, faut le dire.
Je suis pas étonnée. Je sais pas pourquoi je suis pas étonnée.
Des restaurants. J'organise toujours des grosses réunions au restaurant, donc à Montpellier, toujours avec toute l'équipe. Dès qu'il y a beaucoup d'équipes, de gens d'équipe qui sont là, donc on est souvent 15, voire plus, donc c'est compliqué pour les restaurants. Et Maëva est plutôt celle qui organise les soirées après.
Les afters.
Pour danser. Parce que Maëva adore danser. Voilà, faut le savoir.
La danse et moi, je pense que c'est une histoire d'amour qui dure même avant ma naissance. C'est un truc qui, je pense que voilà, c'est l'amour éternel de ma vie, la danse. Et du coup, voilà, si je peux emmener les autres en boîte, en machin, je sais pas, je suis la première à le faire.
Le bout en train, voilà, on appelle
voilà,
ça. Alors, il y a 2 mois de décalage à peu près entre le tournage et la diffusion maintenant. Alors, dernière petite question, allez, un petit scoop sur ce qui va arriver à Inès.
Ah, je sais
pas. Va-t-elle avoir un nouvel amoureux?
Alors, c'est la seule question à laquelle je vais répondre. Ouais. Et je vais vous dire que non.
Donc, avec Théo, c'est pas gagné?
Ah bah, à voir.
À voir, bon. Marie-Clotilde, alors même question.
Alors moi, je ne sais rien de mon personnage là dans les mois à venir. Ils ne veulent rien me dire, donc je ne peux même rien vous dire en fait.
Tu sais pas ce que t'as tourné pendant 2 mois là?
Ah mais si, là pendant 2 mois oui, mais je peux pas vous dire.
D'accord, bon. Eh bien, vous serez obligé de suivre, voilà, c'est comme ça. Vous serez obligé de regarder tous les soirs à 20h45 France 2 dans un si grand soleil. Merci à toutes les deux d'être passées nous voir.
Merci, merci beaucoup.
C'était le rayon de soleil de cette soirée.
Oh bah, que de compliments, on reviendra plus souvent.
Ok, comme vous voulez, à bientôt.
Moi je pense que c'est une bonne chose que t'aies porté plainte.
Si vous voulez que le véritable meurtrier de votre ami soit puni, il faut m'aider.
Moi je t'aime, je tiens à toi, je veux qu'on s'en sorte, mais toi j'ai un truc, tu renonces, tu baisses les bras.
Mon meurtre, tiens.
Est-ce que tu sais que j'ai raison? Monsieur Laurent, je l'ai pas fait pour vous, je l'ai fait pour les élus.
Allez, dans 3 minutes, on passe en revue nos coups de cœur télé de cette semaine avec évidemment notre spécial Un homme parfait, une mère sous influence. On parle des ombres rouges et puis les jumeaux termineront l'émission avec nous. Alors ne bougez pas, à tout de suite, on revient dans 3 minutes.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Alors pour démarrer nos coups de cœur télé, eh bien demain soir sur C8, vous avez découvert la semaine dernière les 2 premiers épisodes des Ombres Rouges, la première grande saga. Eh bien aujourd'hui, on va s'intéresser un peu au côté technique puisqu'on va recevoir eh bien notamment sa productrice, Cécile Grenouillet. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Christophe Duchamp, le réalisateur également des 6 épisodes. Bonjour Christophe.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous tous les deux. Déjà, j'aimerais savoir qui a eu l'idée de cette histoire, Cécile.
Alors, l'idée est une idée de producteur à la base. C'est l'idée d'Alban Etienne, qui est donc le directeur général de Banijay Studio France, et qui avait envie de proposer à C8 une grande saga familiale. Et c'est lui qui a initié ce projet, qui a développé cette idée avec Sébastien Le Délésir et Manon Dilis, qui sont les 2 auteurs de la Bible et de l'idée originale, on va dire, du projet. Voilà.
Alors quand on regarde l'image, quand on voit l'histoire, on a vraiment l'impression d'être complètement dans les codes de la saga d'été presque.
C'était ça, l'idée c'était de fédérer le public autour d'une saga, une saga d'été comme en général le public aime. Pour cette première fiction de C8, C8 aujourd'hui n'est pas connu pour sa fiction et il nous semblait intéressant de proposer au public quelque chose qu'ils affectionnent particulièrement, une saga d'été.
Alors ça a commencé très fort dès les 2 premiers épisodes. Pour ceux qui les ont ratés, Christophe, on plante le décor avec vous.
Ah, alors le premier épisode en fait c'est l'élément déclencheur et c'est rare qu'on démarre une série et c'est peut-être la petite particularité d'une saga familiale qui commence par l'élément déclencheur. C'est que de ce teaser... en fait, va découler toute l'histoire des 6 épisodes. Donc, c'était les premières secondes du film ont des répercussions jusqu'aux dernières secondes de la série. On va pas trop en dire. Ce teaser du premier épisode appelle le personnage de Nadia Farès. Et de là, on voyage à travers tous les personnages, toute cette famille et toutes leurs histoires, de personnage en personnage. Voilà.
Le choix de la Provence comme toile de fond s'est imposé de suite, Cécile?
assez naturellement, oui, dans le sens où qui dit saga et éventuellement saga de l'été dit soleil, dit paysage, en tout cas une somme de paysages assez intéressants, et il me semble assez naturel d'aller aux alentours de Marseille pour la pluralité de paysages qu'on pouvait trouver là-bas. Et puis un des personnages de la série, c'est quand même cet hôtel et cette maison familiale qui les lie tous, et on a trouvé des décors dans cette région qui sont extrêmement beaux, entre mer et montagne. C'est presque un personnage à part entière. Je sais pas ce que t'en penses, Christophe.
C'est un personnage à part entière. Le choix de la région, alors, bon, saga d'été, pas saga d'été, mais le choix de la région, c'est que on voulait quelque chose de solaire, on voulait des paysages qu'on regarde à travers les personnages, on voulait une ambiance, on voulait une espèce de contraste entre la lumière et l'histoire, qui aurait pu être racontée par un temps gris et sous la pluie, mais où on voulait justement montrer un drame sous le soleil.
Cécile, quand on produit pour une chaîne comme C8, je suppose qu'il faut faire des économies à tous les étages, puisque évidemment C8 n'a pas forcément les mêmes objectifs hein, qu'une saga, moi je pourrais comparer comme La Vengeance aux yeux clairs sur TF1. Comment on gère justement ce budget avec un casting comme vous avez? Parce qu'il faut quand même le dire, là on est sur un casting 4 étoiles, hein, on peut le dire, hein, Dalia Fares, Manon Azem, Antoine Duléry, Lannick Gautry, Raphaël Langlais, Mamed Areski, hein, ça, on sent bien la patte d'Ouchan là-dedans. Et c'est vrai qu'on a un très très beau casting, alors comment on fait?
Ben en fait, on réfléchit différemment la production. Déjà, c'est vrai qu'on a en particulier travaillé sur du double plateau en partie sur la période de tournage, ce qui très naturellement limite les coûts. Si on, évidemment, c'est une série qui a une vraie valeur de prod à l'image, donc il faut travailler sur comment produire, en fait, comment produire différemment. Nos comédiens aussi font des efforts, mais pas tant que ça. Enfin, je veux dire, c'est des comédiens qui ont une vraie notoriété. Donc, on a travaillé sur l'écriture. C'est ce travail en amont. Les scènes, on les écrit différemment pour pouvoir les produire, tout simplement avec un budget qui est évidemment pas le même que celui des sagas qu'on peut avoir sur des chaînes hertziennes traditionnelles. Pour autant, je pense que le public qui regardera ne verra pas du tout la différence entre une image TF1, France 2 et la nôtre. Je pense qu'on a vraiment réussi à tourner dans des décors et à poser une image et une mise en scène qui est vraiment de grande qualité.
Je vous confirme, vous ne verrez pas cette différence, croyez-moi, parce que voilà, l'image est très très belle. Aussi, ça a été tourné en combien de temps? 2 mois, c'est ça?
On a tourné du 28 mai au 31 juillet. Voilà, donc à peu près 2 mois, en effet.
Il faut savoir qu'un 6 fois 52 minutes, normalement, c'est 1 mois de plus. Donc, vous avez déjà raccourci la durée de tournage. Donc, ça a tourné beaucoup plus vite. Donc, il faut des comédiens aguerris et un réalisateur aguerri.
2 réalisateurs. J'allais y venir. En fait, on a tourné en tout 47 jours de tournage en première équipe et 15 jours de tournage en deuxième équipe, ce qui nous a permis justement de rentrer dans cette économie-là avec une réalisatrice qui est Corinne Bergas, qui est une directrice photo et réalisatrice avec qui je travaille depuis longtemps et qui est vraiment une complice et qui a fait un travail formidable dans très très peu de temps et qui nous a permis de tourner dans cette fenêtre de tir très courte entre disponibilité de comédiens, disponibilité de décors. Chaque étape réclamait une question relative au budget. Et en fait, ça a donné un moteur particulier et d'une aventure particulière où même, je dirais, les comédiens qui en général sont absents de ce genre de problème-là se sont plongés avec nous. Et on fait corps. C'est-à-dire que c'est une série qu'on a fait à une vitesse incroyable et qui a généré une énergie permanente de tous. Jamais on a eu un problème.
Comme quoi, tout est possible. Ça va peut-être faire des émules.
Faut surtout pas le répéter.
Les Ombres Rouges, c'est à ne pas manquer. On va écouter évidemment la bande-annonce pour commencer. Merci à tous les deux d'être passés nous voir pour nous parler vraiment de cette partie technique qui est aussi intéressante. Merci à vous.
Merci à vous.
Merci beaucoup, à bientôt.
Et ta nouvelle sœur alors?
Je lui ai à peine parlé. J'en peux plus de cette famille, en fait. Il n'y a jamais rien de normal. Jamais. Ils sont tous chelous, en fait.
Vous savez quoi? Mais dis-leur que ton frère, il a défoncé. Hein. Il est de retour en ville.
Et alors?
Il a récupéré ses dents?
Ouais, il a raison, Hugo. Je peux dire que le mec, il va se faire discret maintenant.
Enfin, ton frère, il a quand même balancé son gramme de coke dans les chiottes, quoi. C'est pas...
Je reviens, le mec.
Allez, une merci aux influences. Eh bien, c'est le téléfilm qui vous attend sur France 3 cette semaine avec une très belle distribution. Julie Debona et Caroline Anglade, deux amis qu'on est heureux de retrouver dans Chut, on écoute la télé. Bonjour les filles.
Et bonjour.
Et bonjour. Et
comme je suis bien entourée aujourd'hui, nous avons également la réalisatrice Adeline Darrault qui est avec nous. Bonjour Adeline.
Bonjour.
Et la productrice également, Mathilde Muffan, qui est avec nous aussi. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Alors un tournage en Nouvelle-Aquitaine en plus, donc on peut pas évidemment passer à côté. Sur le bassin d'Arcachon, avec les très beaux décors évidemment qu'offrent ces paysages-là. Premier mot, qu'est-ce qui vous a fait aller vers cette histoire? Qu'est-ce qui vous a fait la produire? Qu'est-ce qui vous a décidé Mathilde?
Alors c'est un mélange, il y a toujours la grande efficacité des polars de Patricia MacDonald qui est vraiment la reine du thriller psychologique intimiste, c'est-à-dire ça se passe toujours soit dans un couple, dans une famille, entre amis, enfin ça nous concerne tous de très près. Et là, en plus de l'efficacité de l'histoire et de cette histoire de deux amis, il y avait le thème qui nous a beaucoup intéressé avec également la scénariste Elsa Marpeau, de la petite dépression postpartum qui touche en fait quand même beaucoup de femmes à des degrés différents, c'est-à-dire ça peut être un peu léger, quelques jours, un coup de blues, ou ça peut être beaucoup plus puissant. Et c'est vrai que c'est difficile, on en parle peu, et on en parle peu souvent parce que les femmes ont un peu honte, comme si elles étaient discréditées de ressentir ces émotions négatives, alors qu'en fait il faut, je crois vraiment le dire, c'est assez universel, à des degrés divers bien sûr, mais il faut, c'est intéressant d'en parler, et c'est ça qui nous a intéressé, même si c'est un des aspects, mais c'est le point de départ, on va dire, de ces émotions négatives qui vont faire basculer la vie dans le drame. Voilà.
Adeline, comment on réalise justement une histoire tirée d'un roman ?
Moi, j'ai fait le choix de pas lire le roman avant de tourner. Je me suis concentrée sur le scénario écrit par Elsa et écouter Mathilde aussi beaucoup sur ce qu'elles avaient envie de raconter, ce qu'on voulait défendre dans le film. Voilà, partie donc vraiment du scénario et de nos personnages écrits dans le scénario.
Alors les filles, Claire et Juliette. Claire interprétée par Julie Debona et Caroline Anglade qui interprète Juliette. Alors l'histoire commence évidemment mal, hein, dans un aéroport où d'un seul coup, Juliette, tu reçois un appel désespéré de ta meilleure copine qui se trouve avouée avoir assassiné son mari et son bébé.
Exactement, bah oui, donc c'est là que tout commence. Donc là, je file au commissariat pour la rejoindre et pour comprendre un peu plus ce qui se passe.
Julie, cette histoire, qu'est-ce qui t'a fait dire oui tout de suite? Qu'est-ce qui t'a plu?
Et bien, c'est exactement ce que dit Mathilde. Moi, ça m'a vachement touchée à la lecture, ce personnage, parce que c'est la dépression postpartum. J'ai des amis qui l'ont vécu autour de moi et les femmes n'osent pas en parler, elles ont honte et elles ressentent des choses tellement négatives, sombres qu'elles assument pas ça et donc j'ai trouvé que c'était important de le mettre en image, d'en parler. Alors bon, là on est vraiment tombé du côté obscur, c'est-à-dire que elle va jusqu'à croire qu'elle s'accuse d'avoir tué son enfant parce qu'elle a pensé ça en fait. Et c'est parler de ses pensées en fait négatives que certaines femmes ont, et c'est tragique, et donc qu'elles se sentent un peu moins seules peut-être.
Alors il y a un très beau casting hein, évidemment dans ce film, on peut le raconter un peu?
Oui, on a également Sophie Broustal, André Marcon, qui sont donc les beaux-parents de Claire, Julie Debona. Et puis, on a aussi Arnaud Binard, qui est un vieil ami de son mari et qui va incarner un contrepoids à ce que pense Juliette, parce que Juliette, quand même, bon, bah, elle est sûre que sa copine est innocente, mais enfin, quand même, tout l'accuse et elle a avoué en plus. Donc, Paul, il incarne un peu la raison, on va dire. Et donc, ils sont un peu opposés et en même temps, quand même, attirés l'un par l'autre, parce que, bon, ben, bah, tous les deux, ils ont une rencontre un peu électrique la première fois qu'ils se sont vus au mariage. Donc il y a des choses qui se trament dans l'air. Il y a du vécu hors enquête, on va dire, qui est toujours un peu présent et qui les encombre et en même temps qui leur plaît.
Alors Julie, entre Ils ont échangé mon enfant et là, on te voit vraiment dans deux rôles dramatiques quand même.
Et oui, mais je trouve qu'ils ont rien à voir tous les deux. Donc Ils ont échangé mon enfant, c'était très solaire, c'était une battante, c'était une femme qui allait contre la fatalité, qui voulait s'en sortir et garder cette relation avec sa fille et se battre. Ce qui m'a attirée dans ce personnage de Claire dans Une mère sous influence, c'est qu'elle lâche l'affaire en fait, qu'elle s'accuse et qu'elle accepte un drame en fait, elle accepte cette fatalité. Et donc ça a une énergie mais totalement différente pour moi, en tout cas pour l'interpréter. Et donc j'ai commencé par Une mère sous influence et j'ai fini dans le tournage, même si ça a déjà été diffusé. Et pour que ce soit plus solaire pour la maternité, pour moi, j'ai adoré jouer ces deux drames sur la maternité et aborder le côté vraiment noir d'un rôle de mère.
Caroline, c'est pareil qu'on a l'habitude de voir dans des rôles voilà, assez drôles, qui est pétillante d'origine, hein, j'ai envie de dire. Là, c'est pareil, on va la voir dans un rôle un peu plus dramatique. Ouais.
Bah oui, et c'est pour ça que j'ai été hyper heureuse qu'on me le propose. Et quand j'ai rencontré Adeline, déjà, je m'attendais pas du tout à ce qu'on me le propose. Et quand j'ai lu, je me suis dit, génial, c'est tout ce que j'ai envie de faire, de défendre, de montrer et d'aller vers ce genre de registre.
Alors les filles, on a une question d'une de nos auditrices, c'est Valérie, qui vous demande si vous vous connaissiez avant le tournage et si ce téléfilm vous a permis de vous découvrir en tant qu'actrice et en tant que personne. Elle vous fait un bisou en même temps, Valérie.
À mon avis, Valérie doit bien nous connaître. Elle doit nous suivre sur les réseaux sociaux. Valérie, je soupçonne Valérie de nous suivre sur les réseaux sociaux.
Bonjour et merci de ton soutien. Alors nous n'étions pas du tout amis avec Julie, enfin en tout cas on ne se connaissait pas et on a été très heureuses de partager ce duo fort et ce thème vraiment délicat à aborder et derrière bah on a effectivement consolidé ou en tout cas on s'est rencontrés et on est devenues très copines. Très amis depuis.
On va écouter un petit extrait. Ne le ratez pas, c'est le film à ne pas rater cette semaine sur France 3. Le film s'appelle Une mère sous influence. On revient juste après.
Mais t'es là, qu'est-ce que tu fous? Dépêche-toi, on va être en retard.
Il va se réveiller.
Justement, on va y aller. Allez.
Non, j'y vais pas, je peux pas.
Hein?
Oh, si, emmène-moi. Emmène-moi loin.
Qu'est-ce qui se passe?
S'il te plaît, emmène-moi. Emmène-moi loin de tout ça, loin de ce cauchemar. Non.
Mais arrête, arrête, enfin, on a vécu pire que ça.
J'ai juste besoin de dormir, je suis fatiguée.
Voilà, Une mère sous influence, alors c'est cette semaine sur France 3. Adeline, qu'est-ce qui vous a plu dans les paysages d'Arcachon et de quelle façon vous avez voulu les filmer autour de cette histoire quand même, voilà, assez noire?
Déjà, on avait besoin d'un bord de mer pour notre histoire. On avait besoin de mettre en danger dans l'eau notre héroïne. Donc, on a choisi effectivement une région de bord de mer. Moi, ce que j'aime dans cette région, c'est aussi son côté naturel, peu construit, protégé, qui est finalement très, très beau à filmer. On a des paysages qui sont simples, naturels et beaux, tout simplement.
Exactement. Quelle a été la scène pour vous la plus marquante, les filles, Julie, Caroline? Alors moi, j'ai bien une idée pour toi, Caroline, d'une scène un peu compliquée sur la plage.
Alors moi, c'était la scène de l'église. Et c'était mon premier jour de tournage. Alors je sais pas si c'était le premier jour, je pense pas. C'était mon premier jour de tournage et on m'a fait commencer par la scène la plus difficile et la plus éprouvante. Et ça a aussi mis tout le monde dans l'énergie du film, je trouve, dans le côté dramatique, ouais. Et tout. Et puis au final, le montage d'Adeline et la réalisation d'Adeline, j'ai trouvé que c'était l'une des plus belles scènes du film.
L'enterrement?
C'est ça, pardon. Je me suis mal exprimée. C'est la scène de l'enterrement. C'est pas la scène de l'église. C'est vrai qu'il y a une scène d'église au début, donc c'est pas cette scène-là.
Ouais, sensiblement, elle a été très intense à jouer pour tout le monde. C'était très très fort. Il y a eu une autre scène que j'ai adorée aussi, moi, ce qui me concerne, c'est la scène du commissariat avec Julie. Où on a sa confidence et celle-là, elle m'a. Dans le jeu, j'ai beaucoup appris ce jour-là. Enfin, c'était un échange magnifique.
Mathilde?
Ouais, moi je voudrais ajouter quelque chose par rapport à la scène de l'enterrement. Il y avait tout plein de figurants locaux qui étaient des habitants près d'Andernos-les-Bains et qui eux-mêmes ont vraiment joué le jeu parce que c'est comme s'ils assistaient également véritablement à l'enterrement. Ils ont été au-delà de la figuration, ils ont été bouleversés. Et ils ont aidé la mise en scène. Et je me souviens que Adeline leur a dit à plusieurs reprises merci tellement. Elle, voilà, il faut que tu en parles. Peut-être tu as été soutenue par eux aussi, ces habitants du coin.
Bien sûr, je pense que tout le monde est très choqué de voir un enfant dans un si petit cercueil blanc. Ça a été bouleversant pour tout le monde, autant pour l'équipe même. On n'a pas vu l'enfant, on a vu le cercueil. Et c'était important de le tourner effectivement au début parce que ça permettait que tout le monde. Chaque personnage comprenne bien l'enjeu du film aussi. C'est-à-dire que ça met en place dans la tête la difficulté de vivre avec ça, après ça.
Bon, sinon, est-ce que ça gratte encore le sable, Caroline? Vous verrez, hein, vous comprendrez quand vous verrez le film.
Non, ça ne gratte plus. J'ai pris plusieurs douches depuis. Et donc, du coup, non. Mais alors, cette scène est troublante parce qu'elle n'était vraiment pas évidente. Mais on a quand même, malgré tout, on s'est beaucoup marré à la faire.
Et voilà, maintenant vous verrez le résultat dans Une mère sous influence, et bien cette semaine sur France 3, si vous voulez voir de quoi on parle. Merci à toutes les quatre d'avoir été avec nous pour cette spéciale, je vous embrasse très fort.
Merci Alain pour tes interviews, c'est toujours un plaisir.
Merci beaucoup, merci Caroline, merci Adeline et merci Mathilde.
Merci.
Merci beaucoup.
Embarquement du vol Paris-Ajaccio en porte 27.
Non. Juliette, on n'a pas le temps, il faut qu'on se mette, quoi.
Oui, bah
allez,
j'arrive,
active, allez.
J'arrive. Attends, c'est elle me rappelle.
Mais on la rappellera dans la salle d'embarquement. On doit s'enregistrer dans 5 minutes, quoi.
Mais Claire.
Qu'est-ce qu'il y a?
Jérôme est mort. Le bébé aussi. Ils viennent d'être assassinés.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coup de cœur télé cette semaine consacré au film Un homme parfait qui sera diffusé mercredi sur France 2. À cette occasion, eh bien, on a la chance aujourd'hui d'avoir toute l'équipe avec nous puisqu'on reçoit Odile Huillemin qui fait son retour dans notre émission. Bonjour Odile, merci d'être avec nous.
Ben, merci à vous, bonjour.
Et on va recevoir également eh bien, la petite Lila Rose, Gilbertie Poiseau, qui est un peu l'héroïne, je trouve, de ce très beau film, qui joue le rôle de Claire. Bonjour Lila Rose.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Didier Bivel, le réalisateur également, qui est avec nous. Bonjour Didier.
Bonjour.
Alors après, nous avons également...
Guillaume Bernard, un des producteurs, et Charles Bernard.
Bonjour.
Et vous avez produit le film.
Absolument.
Très bien. Alors un film, si on devait dire, je pense qu'il faut toujours se méfier des apparences. Ça serait déjà un premier bon résumé sur ce film que moi j'ai trouvé bouleversant déjà d'une, qui m'a fait penser un peu aux chatouilles, le film Les Chatouilles. Évidemment, on peut pas ne pas y penser. C'est un film très fort. Qui c'est qui veut nous planter un petit peu le décor en premier ? Didier ?
Voilà, c'est un film dur, âpre, mais je crois qu'on a tout fait pour qu'il soit beau en même temps.
Et avec un Loïc Corbery qui est absolument... incroyable de justesse. Comment on se prépare à un rôle comme ça, Odile, vous qui en avez déjà joué des durs, des rôles pour le coup hein.
Ouais. Ben, on plonge, on prépare un peu comme n'importe quel rôle, avec peut-être un peu plus de conscience que c'est un sujet sociétal grave et qu'il faut essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Après, on a beaucoup travaillé avec Didier en amont sur le texte, sur le sens, sur le message à transmettre. Après, c'est un travail de comédienne, je dirais, classique pour moi. Je veux dire, il n'y a pas de petit ou grand rôle. C'est toujours aller créer un personnage et c'est toujours aussi fascinant pour moi. C'est après, le texte raconte pas forcément la même chose avec un impact plus ou moins fort en fonction des histoires.
Lila Rose, tu connaissais Odile avant?
Non, enfin, on n'avait jamais tourné ensemble, mais...
Tu l'avais vu dans des séries, peut-être ?
Bah, dans Profilage, je la connaissais de nom et puis de tête, mais j'avais pas vu parce que Odine, elle tourne surtout dans des films, dans des séries et des films plutôt pour les grands, quoi.
Et alors, elle est impressionnante ou pas ?
Non, franchement, franchement, elle est super sympa, Odile.
Bon, alors, tout va bien. Tu vois, Odile, c'est impeccable.
Ouais, merci.
Bon, qui a eu l'idée déjà d'aborder cette thématique, les producteurs, là, tous les deux? Guillaume.
Au tout départ, en fait, c'est une adaptation d'un livre de Mathieu Ménego qui s'appelait Un fils parfait. Et on avait déjà lu son premier livre, c'était son second livre et on avait beaucoup aimé le premier. Et dès que le livre est sorti, on a adoré, on l'a tous lu et on a tout de suite eu envie de faire ce film. On s'est adressé à Mathieu et on a ensuite trouvé deux auteurs pour faire les adaptations, Dominique Garnier et Françoise Charpia, qui ont fait un boulot absolument incroyable. Et très vite, comme une évidence, aussi bien à la réalisation, on avait envie de travailler avec Didier Bivel, dont on aimait beaucoup le travail. Et puis, on s'est tous dit qu'on voulait une comédienne en particulier, c'était Odile. Et après, ce qu'il fallait, c'était d'arriver à la convaincre, parce qu'il fallait une comédienne vraiment capable d'endosser ce rôle, qui est quand même très compliqué. Et on a eu assez de chance, on a parlé avec France 2 très rapidement, ils ont été assez vite convaincus par le sujet et par l'importance du sujet. Et je sais pas, il y a une espèce d'alchimie, les planètes se sont alignées, on a tous travaillé dans le même sens, on s'est tous beaucoup concertés, c'est vraiment un travail d'équipe, on dit souvent, mais là c'est vraiment le cas entre tous les corps de métier pour un film, qui font un film. Et on est plutôt satisfait du résultat parce qu'on a l'impression d'être sincère dans ce qu'on a fait et responsable dans le message qu'on fait passer.
Alors souvent c'est le réalisateur qui fait faire les castings, les essais, Didier. Pourquoi Lila Rose ? Qu'est-ce qu'elle a eu de plus ?
Mais regardez-la, c'est une évidence. Lila Rose, c'est un être assez incroyable parce qu'en même temps, elle est toute petite, elle est très jeune et en même temps, elle est très, très mature. C'était une évidence parce que l'histoire est très dure. Au casting, bien sûr, on a décidé de jouer la transparence. Donc, on a averti tout de suite le sujet. On en a parlé aux parents, on en a parlé aux jeunes, aux enfants. Et Lila Rose a pas du tout, elle a pas été du tout impressionnée. Elle a joué le jeu, quoi. Elle a trouvé que c'est un film important à faire. Elle est très militante, m'a dit sa maman, ce que je trouve assez incroyable pour 11 ans. Et je pense que tout ça a fait que c'était elle et c'était évident.
On va écouter tout de suite un petit extrait de la bande-annonce. Hein. Un homme parfait, mercredi. On va découvrir Maxime, qui est peut-être pas un père aussi parfait, qui veut le laisser croire à tout le monde en tout cas, y compris à sa femme. On écoute tout de suite.
Et papa ?
Tu veux pas que je te lave ?
Papa, il veut toujours qu'on attende pour prendre le bain avec lui.
Depuis quand? Ravis-toi, Jules.
Voilà, un homme parfait. Je dirais presque que c'est une mission de service public. C'est un film nécessaire qu'on va voir mercredi, qu'on peut regarder tous en famille. Je le conseille vraiment de pouvoir le regarder tous ensemble, Guillaume.
Oui. C'est vraiment un film qu'il faut voir, puisqu'en fait, le message le plus important, c'est qu'on s'est rendu compte en faisant l'enquête autour de l'inceste, c'est que la plupart du temps, c'est l'omerta absolue, c'est-à-dire que les victimes ne parlent pas ou se rendent compte de ce qui leur est arrivé que bien plus tard. Et qu'à la fin, quand elles veulent porter plainte, les faits se sont déroulés 15, 20, 30 ans avant. Et donc souvent, on se retrouve à parole contre parole et la justice n'arrive pas à condamner les auteurs de ces méfaits. Et donc là, en fait, dans ce film, le fait que ce soit Odile se rende compte de ce qui se passe et que ses filles ont vraiment été abusées par leur père, ça permet évidemment de confondre le père tout de suite et donc de pouvoir envisager d'avoir une suite judiciaire qui aboutisse. Parce qu'il faut savoir que dans ce genre de cas, il n'y a que 2% des violeurs en fait qui sont vraiment condamnés, et dans 80% des cas c'est classé sans suite parce qu'on n'a pas de preuves. Donc en fait il faut vraiment casser cet omerta et que lorsque ça se passe, eh bien les gens soient capables d'en parler les parents avec leurs enfants. Et s'il y a un message dans ce film, c'est celui-là, c'est d'être à l'écoute évidemment de ses enfants et de croire les enfants, c'est important.
Odile, quelle a été la scène la plus forte à jouer, même si j'ai un petit peu mon dîner? J'ai trouvé par exemple la scène où vous vous retrouvez toutes les deux, où elle vous avoue, enfin où elle vous dit, où elle vous explique les choses. Il y a un long silence et je trouve la scène très forte entre vous deux en tout cas.
Ouais, non, c'est pas celle-là la plus difficile. La plus difficile, c'était celle quand on arrive à l'hôtel après s'être enfui et avec les trois petites. Mais
submergé par rapport au thème, même quand on est comédienne, on sait qu'on joue la comédie, mais est-ce que des fois on peut être submergé par l'émotion?
Bah sinon on est des robots, c'est chiant. Non mais c'est vrai, moi c'est pas du tout ma façon d'aborder mon métier.
C'est pour ça que je demande. Maintenant que je connais un petit peu l'être.
Je suis là pour transmettre des émotions. Si je suis pas capable de me laisser émouvoir et de me laisser traverser par la vie, je vois absolument pas l'intérêt de vivre, quoi. Donc c'est une philosophie à la fois personnelle et professionnelle. Mais voilà, on se laisse submerger. Je peux pas transmettre quelque chose si j'ai pas fait baisser toutes les gardes, donc pour moi être acteur c'est être dans un état de fragilité pour pouvoir laisser quelqu'un d'autre émerger, et si j'arrive avec mes barrières, je ne fais que imposer mon filtre au spectateur, et c'est pas l'objectif de mon métier, enfin en tout cas pas pour moi.
Lila Rose, pour toi, la scène la plus impressionnante dans le film que t'as eu à jouer?
Celle dans l'hôtel, c'était quand même compliqué de... Parce qu'il fallait la refaire plusieurs fois et puis ça demandait beaucoup d'émotions. Et puis surtout, je la trouvais vraiment forte parce qu'en fait, elle va jusqu'à en dire qu'elle mentait pour pouvoir revoir son père. J'ai trouvé vraiment cette scène très, très forte. Voilà.
Avec Loïc, ça s'est passé comment?
Loïc, il était vraiment super, super, super gentil. Donc, ça fait bizarre de le voir en super méchant à l'écran, quoi, parce qu'il était vraiment adorable.
Alors, quand t'as vu le film la première fois, il était projeté au Festival de Luchon. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Parce qu'en plus, tu l'as vu avec des spectateurs, ce qui n'est pas toujours le cas en télévision, de pouvoir avoir la chance de le voir avec des spectateurs en même temps.
Ben, j'ai trouvé déjà le film très beau, mais je m'attendais vraiment... à ça, au niveau des images, de comment est-ce que c'était tourné, je m'attendais à ça, mais avec la musique en plus, les scènes où j'avais pas tourné, j'ai vraiment trouvé ça très impressionnant de le voir.
Le film monté?
Oui, voilà, complètement fait. Voilà.
Odile, les retours justement, c'est toujours certainement impressionnant de regarder une première fois un film comme ça avec du public, les retours à la sortie de la salle.
C'était ma première fois aussi, alors c'est toujours émouvant de voir la salle. Après, là, il y avait deux choses. Il y avait à la fois le retour de la salle et il y avait moi, la découverte du film que je découvrais aussi devant tout le monde. Donc, c'est des sujets qui peuvent être émouvants. Après, il y a l'émotion de la salle qui emporte un peu, je pense que je l'aurais vu seul chez moi, j'aurais probablement pas eu la même émotion. Mais, je sais pas.
Charles, en tant que producteur, pareil, quand on voit, alors il y a le tournage qui se fait, vous n'êtes pas tout le temps sur le tournage, hein, les producteurs, le réalisateur est aux manettes. Quand vous avez vu les premiers rushs, vous vous êtes dit quoi?
On a tout de suite été convaincu qu'on allait dans le bon sens. C'est-à-dire que, mais vraiment, c'est pas pour être agréable avec notre réalisateur, mais c'est que dès les premières images, on a vu que Codil avait le ton juste, on a vu qu'au niveau de l'image, on faisait exactement même mieux que ce à quoi on s'attendait. Et donc, on a été assez immédiatement rassuré quant au résultat qu'on allait avoir. Voilà, ça peut paraître étonnant, mais on est tout de suite parti dans une spirale très positive dans ce film. Ce qui fait que c'est toujours bien parce que la relation qui s'installe avec le réalisateur derrière, avec les comédiens, elle est très favorable parce qu'on est dans le positif. Donc on n'est pas dans la confrontation. Après, sur le plateau, effectivement, on n'est pas là tous les jours. Les comédiens, le réalisateur doivent se confronter à des difficultés parfois qu'on ne soupçonne pas. Et ça, on n'est pas naïf, on en a bien conscience. Mais nous, quand on était derrière notre écran d'ordinateur et qu'on regardait les rushs, on était juste dans un état de satisfaction totale dès le début. Donc avec l'inquiétude que ça dure jusqu'au bout, mais quand on voit le résultat final, on est plutôt fiers de ce film.
Ne le ratez pas, ce film, c'est Un homme parfait, c'est mercredi à partir de 21h10 sur France 2, juste après Un si grand soleil. Je vous souhaite tout le meilleur, des belles audiences pour jeudi matin, et je vous dis à très bientôt. Merci à tous.
Au revoir, merci.
Au revoir, merci.
Merci infiniment.
Merci.
Merci, au revoir.
Elle te trompe.
Ils sont rencontrés au moment de ses premiers déplacements, je crois.
Vous paraissez si heureux.
Elle cachait bien son jeu.
La Corse. Si elle t'accuse d'inceste pour pouvoir divorcer et avoir la garde des enfants, je te promets qu'elle va le regretter.
Bon, la première chose à faire, c'est de trouver un bon avocat.
Une femme. Ce sera plus crédible.
Je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas où j'en suis, là.
On saura pour toi.
Bon, écoute, ton père a raison. Et prépare-toi à entendre des horreurs. Elle va te salir, la police va fouiller dans ta vie. Il faut que tu te blindes, Maxime.
Ne te décourage pas, Max. On est avec toi.
Et dans un instant, dans Chut, on écoute la télé. On n'est pas là pour vendre des cravates avec les jumeaux. C'est le rendez-vous que l'on vous donne dans 3 minutes, juste après cette petite pause. Alors surtout, vous ne bougez pas. À tout de suite dans Chut, on écoute la télé avec les jumeaux.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, nos invités maintenant, vous les découvrirez bientôt en spectacle. Ça sera le 20 mars au Café Théâtre des Chartrons à Bordeaux, dans notre région de Nouvelle-Aquitaine. C'est les jumeaux qui sont avec nous, Christopher et Steven. Bonjour à tous les deux. Déjà, bonjour Christopher.
Bonjour.
Bonjour Steven.
Bonsoir.
Vous avez vu, je me suis pas trompé, hein.
Ouais, non, c'est vrai, mais non, tu t'es pas trompé, non, c'est vrai. Comment tu as fait?
Parce que on se connaît depuis 4 ans, hein, on peut le dire comme ça, même si on a la radio.
T'es un peu perdu de vue quand même. Hein.
C'est vrai.
Tu vis sur les réseaux sociaux, c'est beau.
Mais on n'est pas là pour vendre des cravates, vous êtes bien d'accord avec moi?
C'est beau cette expression. Putain, j'en ferai un titre de spectacle, moi. On n'est pas là pour vendre des cravates, j'adore. Exactement, on est là pour faire rire, donc on n'est pas là pour vendre des cravates. On n'est pas là pour acheter le fonds de commerce. On n'est pas là pour trier les lentilles. On n'est pas là pour poser la moquette.
Enfin, moi je peux vous dire, il y avait deux personnages que j'avais hâte de retrouver, c'était Nicolas et Carlita. Et là, vous démarrez fort parce que direct, ils sont là, sur scène, pour nous.
On s'est posé la question quand on a écrit ce nouveau spectacle, est-ce qu'on les fait revenir? Et on l'a pas posé longtemps parce qu'on en a parlé des gens, il faut les faire revenir. En fait, c'est un duo de clowns maintenant. C'est même plus vraiment Nicolas et Carla, c'est un duo de clowns. Steven en Carlita est assez génial. En série, pour ce spectacle, est-ce que Carlita va revenir? Mais comment on la fait revenir? Il fallait qu'il y ait une justification, il fallait pas que ce soit gratos. Et on s'est dit, elle va être présidente de la République. Donc le premier sketch, Carla est candidate. Et le dernier sketch, Carla est présidente de la République parce que nous, on voit les choses en grand et ça part complètement en live. Donc voilà.
En fait, voilà, Carla Bruni, pour tout dire, c'était comme t'avais vu l'ancien spectacle. On a fait une suite directe de l'ancien spectacle. C'est-à-dire qu'on commence comme on avait fini l'ancien spectacle avec Sarko et Carla et on finit avec Sarko et Carla. On a bouclé la boucle. Et alors, il y a une surprise, mais Carla, elle a beaucoup évolué depuis la dernière fois.
Je viens de le dire, mais.
Ah, tu l'as dit.
Bon, il n'y a pas de surprise. Donc elle devient présidente.
De toute façon, il y en a qui commence les réponses et l'autre qui les finit. C'est le temps, c'est des jumeaux.
Au départ, on n'a pas spoilé le spectacle. Les gens vont voir Carla, ils le savent, mais. Et on verra ce qu'elle dit. En plus, on improvise pas mal là-dessus aussi. Donc
c'est léger.
C'est sympa, c'est sympa.
Il y a plein de sujets hein, que vous explorez dans le spectacle. Il y a un hommage à votre région aussi, votre région de naissance, le Nord. Et là, évidemment, quand vous avez commencé à parler de Dunkerque, du Welsh, vous avez réveillé plein de choses hein, que nous, on a découvert en allant, par exemple, à Sérimania l'année dernière à Lille.
C'est ça. Ah oui, c'est vrai que c'est le festival de Séri à Lille. Mais on trouve que les gens viennent pas spontanément dans le Nord. Tu sais, c'est une région qui fait un peu peur aux gens. Donc, on voulait rendre un hommage un peu, mais un hommage bienveillant à la région, pas forcément. On joue des clichés, mais pas trop, parce qu'il fallait qu'on dise que notre région est belle, quoi. Alors, bien sûr, on exagère un peu la vérité. On dit que, voilà, le dicton, c'est quand tu viens dans le Nord, tu pleures deux fois. Une fois quand tu arrives et une fois quand tu regardes la météo de la semaine. C'est ça, le vrai dicton dans le Nord, tu vois. Mais voilà, c'est un sketch hommage. On voulait le faire et il y a même un peu d'émotion à la fin parce qu'on voulait que ce soit pas juste rigolo. Et c'est un sketch sur Dunkerque parce qu'on a fait Christopher Nolan, le réalisateur, qui est venu tourner à Dunkerque. C'est une histoire vraie. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qui se passerait si Christopher Nolan rencontrait un ch'ti?
Voilà, donc on a appelé ce sketch Rencontre du troisième ch'tip.
C'est bien.
Excellent.
Ouais, j'adore. Rencontre du troisième ch'tip.
C'est moi qui l'ai trouvé.
Et voilà, c'est un peu une rencontre où les deux se comprennent pas, mais c'est très beau parce qu'on finit par un coucher de soleil à Dunkerque et qui n'a pas vu un coucher de soleil à Dunkerque a raté sa vie.
Ouais, exactement.
C'est comme avoir une Rolex à 40 ans, c'est la même chose.
50
merde. Moi c'est 40. Dans le Nord, c'est 70 ans.
Je suis d'accord avec vous. En tout cas, si vous avez l'occasion d'y aller, voilà, allez-y. En plus, Cérimania, c'est dans ce mois de mars, hein, du 19 au 30 mars. Alors, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous serez bien accueillis. Et on embrasse d'ailleurs tous ceux qui nous ont accueillis là-bas. Je pense à Maëva, Jean-Philippe et tous les autres. On y retournera très, très vite. Voilà, c'est le pays des Miss aussi, un peu.
C'est le pays des Miss. Une Miss France sur deux vient du Nord aujourd'hui. Et la deuxième, j'ai pas de vanne, là, pas. La deuxième, elle mange des Welsh.
C'est ça.
C'est un Welsh. Vous l'avez mangé?
Ah oui, ça, j'en ai mangé du Welsh. Jean-Philippe au Quai du Vau, ça fait un des meilleurs à Lille.
Quai du Vau, on dit. Le Welsh, pour les Bordelais, est-ce que les Bordelais nous écoutent? Je sais pas, c'est quoi la spécialité, à part le vin, évidemment, de Bordeaux au niveau culinaire, mais un Welsh.
Les cannelés.
Ah oui, les cannelés, c'est super bon, ça. Mais dans le Nord, c'est un peu plus gras. Un Welsh, Steven, qu'est-ce que c'est un Welsh? Un Welsh, déjà, faut mettre à peu près deux, t'es encore en train de le digérer, j'imagine. Parce qu'un Welsh, c'est du jambon, du cheddar, de la crème, du pain, des œufs et de la bière.
Et nous, voilà. En spectacle, on dit,
est-ce que c'est raffiné?
Non, c'est pas raffiné, c'est gratiné.
Parce que, voilà, c'est très très lourd sur le ventre. Mais c'est très bon. C'est très bon.
Faut goûter.
Vous mangez ça le midi. C'est mieux.
Le midi, oui. Le soir, on vous dormait pas. Le midi, c'est bon.
Allez, on va écouter un petit extrait de votre spectacle parce qu'on n'est pas là pour vendre des cravates, moi je vous le dis. Et ça sera l'occasion, une des dernières dates, hein, de le voir. Ça sera le 20 mars au Café Théâtre des Chartrons avant de découvrir votre best-of que j'espère vous reviendrez présenter dans notre région, évidemment, en Nouvelle-Aquitaine. Écoutez.
Steven, Christopher,
jumeaux.
On va faire une campagne soft, clean, sans détournement d'argent, quoi que ce soit.
Mais t'as jamais fait ça, toi?
Oui, ben écoute. On est la crème de la police belge. Ah, vous nous connaissez forcément. Vous connaissez Tintin.
Tintin et Mouloud.
Milou, hein?
Tu embrasses Brigitte pour moi?
Ce sera fait. Embrassez Ségolène.
Et non.
Valérie?
Non.
Julie?
Oui, c'est ça. Fais-moi le pigeon parisien.
C'est qui celle-ci?
Mais c'est la nouvelle infirmière, je t'ai dit, elle est arrivée hier matin.
Mais qu'est-ce qu'elle faisait avant?
Oh, elle travaillait dans les légumes.
Oh, c'était une maraîchère.
Ah non, elle était en soins palliatifs.
Soldomila, soldomila.
On n'est pas là pour vendre les cravates. Moi, je veux du rire, de la gaudriole, de la boutade, de la galéjade.
La soldomila, soldomila.
Rendez-vous dans un mois.
Inch'Allah.
C'est pas sympa, franchement, ce spectacle. Alors, ne le ratez pas. Moi, je vous le dis. Vous l'avez tout écrit, ce deuxième spectacle?
Oui, entièrement à deux, à quatre mains. On écrit toujours à deux. On a un metteur en scène qui est Marie-Pascale Ostérite. Mais l'écriture, c'est nous deux. Et ça, voilà, c'est assez personnel quand même, parce qu'on parle de notre gémellité. Il y a des délires qu'on a vraiment à nous. Marie-Pascale nous disait, c'est dur quand même de rentrer dans votre bulle de jumeaux quand même. Et voilà. Et on voulait aller sur plein de sujets. On voulait que ce soit populaire et en même temps exigeant. Parce que l'humour populaire, ça nous plaît, parce que, bah, ça parle à tout le monde. Mais faut que ce soit exigeant aussi, parce qu'il faut pas souder la gueule des gens quand même. Faut qu'il y ait de la subtilité, faut que ce soit un peu fin, que ce soit un peu raffiné. Et puis des fois, on met les pieds dans le plat et ça nous fait du bien quand on fait des imitations d'animaux, Donald Trump, tu vois.
Bon, en tout cas, c'est un spectacle où vous dites beaucoup de choses vraies, hein, sur votre vie. Et si la dernière fois on était resté sur notre faim et on ne savait pas si vous étiez des vrais jumeaux, allez les voir en spectacle parce que là, on saura le fin mot de l'histoire.
Ouais, parce que quand on écrit le sketch, on nous posait tout le temps cette question, est-ce que vous êtes des vrais ou des faux jumeaux? Et ce qui est vrai, c'est que les médecins ont pas su le dire à la naissance, parce qu'à l'époque, c'était en 87, ça remonte, hein, maintenant.
Oh là, je te parle de ça.
Ah, 31 ans, mon pote.
Ah, l'imagerie médicale était pas au top.
Et du coup, quand on est né, on n'a pas su, soit je n'ai pas trop ma mère. Et on s'est dit un jour, si j'ai besoin d'un poumon, ou si j'ai besoin d'un rein.
Tu te démerdes.
Je me dis, si j'avais un vrai jumeau, ce serait cool, parce que les vrais jumeaux ont exactement le même code génétique. Il y a une seule chose qui différencie les jumeaux, c'est les empreintes digitales. Donc on s'est dit, viens, on fait le test de fraternité, comme ça on pourra parler dans le spectacle. Donc on avait un vrai test de fraternité dans le Nord en 2016, on a prélevé notre salive et on a la réponse et on le dévoile sur scène en chanson.
À la fin du spectacle, ouais, faut pas spoiler évidemment, même si tout le monde s'en fout un peu, on le dit à la fin.
Voilà, c'est important.
L'avenir, un best-of, ça sera la suite, évidemment, un best-of grand cru classé qui sera évidemment des morceaux des deux spectacles.
Oui, alors c'est à la fois un mélange de ni l'un ni l'autre, le précédent, de ce spectacle-là, et aussi on a voulu rajouter des nouveaux sketchs parce que on appelle ça un best-of évolutif. Donc voilà, on voulait pas reprendre exactement les mêmes sketchs qu'on avait, même les sketchs des cravates, c'est pas exactement les mêmes, on les a réécrits, on a remis en scène, c'est pas dans le même ordre, Carla Bruni revient quand même de toute façon, c'est pas une surprise. Mais voilà, on voulait vraiment que ce soit nouveau. Mais voilà, il y a des sketchs comme le sketch des jumeaux, la naissance des jumeaux qu'on faisait dans un spectacle qui nous manquait, le
sketch de Le Roi Lion, on faisait le sketch sur Disney, qu'on a adoré faire ce sketch. Le sketch, on fait un fantasme hollywoodien, la crinière, évidemment. C'est ceux qui l'ont vu, je se rappelle de cette crinière magnifique de Steven. Et voilà. Et on l'a refait, là. On a joué à Grenoble, on a joué à Nantes. Et on s'est régalé déjà. Et on a hâte de le présenter un peu dans les plus grandes salles, parce que c'est un kiff de le faire. Les gens nous suivent à fond. Et ouais, c'est donc, ça s'appelle Grand Cru Classé. En plus, à Bordeaux, je pense qu'il faudra le faire.
Il faudra le faire à Bordeaux, ah, ouais. Ça. On est obligé. C'est la région des Grands Crus Classés, voilà.
On peut toucher à Nantes aussi, hein. D'ailleurs, vous avez joué à Royan le 18 février dernier devant une salle comble. Ouais. C'était du délire. C'était la deuxième fois que vous veniez au Festival d'Escale d'Humour.
C'est génial. On avait un très, très grand souvenir du Festival d'Escale d'Humour. On l'avait fait en 2015 avec Nina Ninotre. Et on adore cette salle. Alors, c'est une salle qui ressemble à un grand four à pain, ou un four à pizza. On sait pas trop. C'est voûté.
Sauf que c'est vous la pizza.
C'est ouais, un peu nous la pizza, sans champignons. C'est dégueulasse. C'est une belle salle, et surtout comme c'est une salle voûtée, on a l'impression de jouer dans une immense cave, en fait. Et du coup, comme elle est voûtée, les retours sont vraiment incroyables sur scène. On entend les rires très très fort, on voit les gens. Royan, non, vraiment un public au top, un festival super. En plus, on a joué un lundi soir. Quand on nous a dit vous avez joué un lundi soir, nous on joue jamais le lundi soir, c'est un jour off pour tous les artistes.
Ambiance de samedi soir.
Bon, en tout cas, on vous retrouve, je disais, le 20 mars, ça sera au Café Théâtre des Chartrons, ça sera à Bordeaux pour ce spectacle. On n'est pas là pour vendre des cravates.
Et on donne rendez-vous évidemment à tous les Bordelaises et les Bordelais. C'est dans le cadre du Festival d'Humour de Bordeaux. Il y a plein de spectacles, mais ne ratez pas évidemment ce spectacle le 20 mars. C'est le meilleur, Steven Cassandy. Je dis oui, venez à Bordeaux, on mangera des cannelés, on boira du bon vin, et voilà.
Et si François Hollande devait vous inviter à venir à Bordeaux?
Écoutez, les amis, et venez à Bordeaux. Et pourquoi je vous dis venez à Bordeaux? Parce qu'il y a des cannelés, ça explose les veines du cul, je t'assure. Amis bordelais, viens à Bordeaux, on va se régaler. Emmanuel Macron, qu'est-ce que tu as envie de redire à ça?
Je voudrais aller à Bordeaux parce que j'aimerais bien voir Alain Juppé.
Il est plus là.
C'est un peu tard.
Il est plus à Bordeaux.
Barré, il s'est barré.
Ah, lui aussi, c'est parti.
Il s'est barré, Alain.
C'est trop tard.
Il m'a pas prévenu, ce con.
Hé hey, c'est le meilleur d'entre nous.
Bon, je crois que tu peux faire Giscard d'Estaing pour terminer.
Écoutez, j'aime bien qu'on m'appelle Brigida, j'allais à Bordeaux.
Et c'est un spectacle moderne. Vous pouvez faire De Gaulle.
Bordeaux.
Mais il faut savoir que Sion fait Pompidou dans le spectacle, et c'est assez énorme.
Je vous ai compris, Bordeaux, venez.
Je peux vous faire René Coty.
Allez, en tout cas, on vous retrouve sur scène. Ne boudez pas votre plaisir d'aller rire. Une bonne soirée. Merci à tous les deux, Christopher et Steven, d'être passés nous voir dans Chute en écoute la télé. À très vite.
À très vite, merci à tous. À bientôt.
Lundi prochain dans Chute on écoute la télé.
Eh bien lundi prochain, on se retrouvera évidemment pour un tout nouveau numéro de Chute on écoute la télé. On aura le plaisir de recevoir le chanteur Benabar qui sera notre invité d'honneur. Un rendez-vous à ne pas manquer évidemment avec un des chanteurs préférés des Français. Nous recevons également le comédien Antoine Duléry qui nous parlera théâtre mais surtout aussi du final des Ombres Rouges, la fiction de C8. Patrick Pudebas et Laure Guibert seront avec nous alias Nicolas et Bénédicte dans Les Mystères de l'Amour. On parlera évidemment du 500e épisode qui vient d'être diffusée sur TMC. Sandrine Salière, elle joue Gwen dans la série Demain nous appartient. Elle sera également notre invitée pour nous parler de son personnage. Et puis vous l'adorez évidemment dans Un si grand soleil, c'est le personnage de Gary, c'est Alban Omar qui sera donc avec nous. Des rendez-vous, des surprises, des comédiens, des invités. Eh bien c'est évidemment le quotidien de Chute on écoute la télé.
Chute on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chute on écoute la télé.
J'aurai donc le plaisir de vous retrouver tout au long de la semaine, tous les jours, à midi sur Brenige FM. D'ici là, eh bien, je vous donne rendez-vous également lundi prochain à 19h pour la grande hebdo de Chute on écoute la télé. Sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée à tous à l'écoute de nos programmes.
Chute on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.